Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est Eric Sprogis. C'est lui qui a accepté de nous donner ses notes, de nous offrir ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis toujours ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Bonjour Jean-Marc et merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute des auditeurs. Aussi, soutien de choix à l'animateur que je suis. Bonjour Eric.
Bonjour.
Auditrice, auditeur, une fois encore, je vous remercie vivement des témoignages que vous envoyez pour donner votre satisfaction à l'écoute de cette émission. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes que Eric Sprogis va nous donner aujourd'hui, que dire, nous offrir. Merci Eric, vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC. Et auditrice, auditeur, Eric a accepté de se prêter au jeu. Il va donc nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Et le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical comme humain. Eric va nous dire comment il vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur lui, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Eric va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres, celle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Eric, vous êtes prêt?
Oui.
Alors Eric Sprogis, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Eric Sprogis, une question pour commencer, comme ça, tout de go. Qui êtes-vous?
Ah, une question toute simple.
Toujours.
Alors, si je veux simplifier la réponse, je dirais que je suis musicien. J'ai été pris de passion pour la musique vers l'âge de, peut-être même avant, sans m'en rendre compte, vers l'âge de 8 ans, et j'en suis tombé éperdument amoureux, et c'est un amour qui ne s'est jamais démenti. Alors, plus concrètement, cette musique, ça s'est exprimé d'abord dans mes études au conservatoire, notamment au conservatoire de Paris, et puis par la suite professionnellement comme chef d'orchestre, compositeur, comme pédagogue, comme directeur de conservatoire, qui a été mon activité principale dominante. Voilà, j'ai également écrit quelques livres sur la musique et sur la pédagogie.
Conservatoire, vous dites, en tant qu'élève, conservatoire de Paris, conservatoire supérieur, vous voulez dire?
Oui.
Et puis vous avez fait d'autres écoles de musique, d'autres conservatoires avant, peut-être?
Et avant, oui, avant, je suis calaisien, je suis donc du Nord.
Un gars du Nord.
Voilà, et j'ai été élève, j'ai débuté mes études au conservatoire de Calais, à la fois en piano, en trompette, en violoncelle, et puis ensuite j'ai commencé à travailler ce qu'on appelait les classes d'écriture, la direction d'orchestre. Ensuite je suis rentré à l'âge de 17 ans au Conservatoire supérieur de Paris.
Et la musique, vous est tombée dessus comme ça par hasard, ou il y a ce qu'on va appeler un bain familial musical?
Oui, on peut dire, je ne vais pas cacher le fait que ma mère était musicienne elle-même, pianiste, elle était répétitrice des chœurs du théâtre de Calais, ce qui sans doute a joué aussi sur mon affection pour l'art lyrique. Donc d'une certaine manière...
L'art lyrique, c'est l'opéra, hein, c'est
l'opéra,
ça,
oui. Mm-hmm. Et d'une certaine manière, je peux dire que c'est vrai que l'envie de musique, et peut-être aussi le fait que mon premier instrument a été le piano, est venu pour une bonne partie de cette influence maternelle.
Alors, vous avez dit que vous aviez appris la trompette, le violoncelle, le piano. Ça veut dire que vous êtes multi-instrumentiste ? Vous avez choisi plusieurs instruments ou plus un que l'autre ?
Oui, j'ai envie de dire, je suis multiple, très moyen instrumentiste. Non, l'instrument que j'ai le plus travaillé jusqu'à avoir une première pratique professionnelle, c'est la trompette.
D'accord. Et pourquoi les autres en plus ? Alors, ça, c'est des choix, des obligations des... Alors,
le piano, ça a été le point de départ, oui. Que je continue à pratiquer, et finalement, que je pratique presque plus aujourd'hui, parce que c'est quand même un moyen aussi de travailler les œuvres, de les découvrir, de découvrir du répertoire, notamment quand on est chef d'orchestre. Et le violoncelle est venu un peu plus tardivement, quand j'avais 15 ans, lorsque j'ai décidé d'être à la fois compositeur et chef d'orchestre, où je me disais que j'avais besoin d'avoir une connaissance pratique des cordes. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais un remarquable professeur de violoncelle qui par la suite a été d'ailleurs soliste, l'un des solistes du premier orchestre de Paris, enfin la première mouture de l'orchestre de Paris. Oui. Et je lui avais dit, écoutez, je ne vous demande pas de m'apprendre à jouer du violoncelle, je vous demande de m'apprendre comment on en joue. Donc en 2 ans, parce que j'étais déjà, je rentrais au Conservatoire de Paris à l'époque, en 2 ans, il m'a appris tout ce qu'on pouvait faire sur un violoncelle, que je n'ai jamais su faire vraiment, mais que je maîtrise, et qui me maîtrise du point de vue de la conception, ce qui me permet effectivement, quand je fais un travail de chef d'orchestre, de ne pas être trop balbutiant et trop naïf vis-à-vis des cordes.
De nous dire finalement, et je trouve ça très intéressant, que les chefs d'orchestre, il faut qu'ils connaissent la manière dont les instrumentistes jouent, c'est ça ?
Oui, alors voilà, il y a... Les deux défauts d'un chef d'orchestre, on pourrait dire, enfin deux des défauts possibles, c'est celui qui ne connaît rien, qui n'a aucune idée de ce que sont les spécificités, voire les difficultés des instrumentistes. L'autre défaut qu'on rencontre aussi, c'est le chef d'orchestre qui se croit omniscient.
Super soliste de tous les instruments.
Et qui voudrait expliquer à tous les musiciens comment ils doivent faire. Alors, il y a quelques chefs d'orchestre qui pouvaient le prétendre. Si on pense à Pierre Boulez, qui était capable quasiment d'indiquer à n'importe quel instrumentiste quel doigté faire et comment produire tout tel et tel son.
Alors Pierre Boulez, compositeur français, directeur de conservatoire
de l'orchestre de l'ensemble métacontemporain, et l'un des plus grands compositeurs français, chef d'orchestre, qui est décédé il y a quelques années.
Ouais. Pardon, je vous ai interrompu.
Non, et lui, justement, avait cette capacité-là, mais enfin, ils sont extrêmement rares. Donc, de certaine manière, il faut trouver cet équilibre entre faire des propositions, savoir aussi comment, par quel... tracas, par quelles difficultés, par quelles exigences chacun des instrumentistes doit passer.
C'est se mettre à la place de l'autre, finalement.
Voilà, on ne donne pas un départ de la même manière pour une attaque à un trompettiste ou un violoncelliste.
Alors donner un départ, ça veut dire faire un geste.
Faire un geste qui permet d'attaquer une note forte, moins forte, courte, très courte, longue, phrasée, donc avec une mélodie. Donc ce n'est pas la même chose, mais en même temps, et d'ailleurs c'est une grande richesse, laisser chacun des artistes, et c'est valable également pour les chanteurs, donner sa propre expression, ce qui permet d'enrichir l'interprétation finale des œuvres qu'on joue.
Si j'ose un mot pour résumer tout ce que vous venez de dire, pardon, au risque de me tromper, ça serait complémentarité. Est-ce que ça vous convient ? On est tous les uns avec les autres et en complémentarité de ce que l'autre peut apporter.
Oui, complémentarité, on peut dire aussi catalyseur.
Ça, c'est le rôle du chef d'orchestre.
Voilà. On dirait aujourd'hui, ça c'est très à la mode, je n'aime pas beaucoup le terme, mais coach de certaine manière, de la même manière que l'entraîneur d'une équipe de football, ce n'est pas lui qui joue, ce n'est pas lui qui marque les buts, ce n'est pas lui qui a d'une certaine manière le talent technique le plus développé, mais c'est celui qui va permettre à l'équipe à la fois de jouer ensemble en équipe et à chacun des talents individuels de s'exprimer.
Alors merci beaucoup Eric de cette introduction fort riche et fort complète, parce que je crois qu'elle est tout à fait indiquée pour que vous nous guidiez maintenant sur le chemin qui va être fait de vos choix musicaux, c'est ça ? Alors il faut bien commencer par quelque chose, et par quoi commencer ?
Eh bien on va commencer par évidemment ce qui a peut-être été, en remontant dans mes souvenirs, ma première énorme passion, qui ne s'est pas démentie depuis, musicale, peut-être celle qui a déterminé mes choix musicaux. C'est un extrait du concerto en ré pour violon de Beethoven. Et pour l'anecdote, j'ai découvert, j'avais 7 ou 8 ans, on avait à la maison un tourne-disque 78 tours.
Voilà, je ne sais pas si tout le monde va savoir ce que c'est.
Non, mais moi je sais ce que c'est.
78 tours.
78 tours, c'est vraiment les vieux disques. C'était une version historique, hein,
oui, oui.
Par Yehudi Menuhin, sans doute le plus grand chef de l'histoire, en tout cas du dernier siècle, pour le violon. Ouais. Et il y avait 11 phases de disques pour ce concerto. Voilà. Et donc, c'est un extrait de ce concerto.
Alors, un concerto, ça veut dire un instrument qui discute avec l'orchestre,
voilà.
Si je fais un résumé,
voilà,
qui se concerte.
Voilà, c'est une des très, très grandes œuvres pour violon, du répertoire de violon. Et là, c'est évidemment du très grand compositeur qui était Beethoven.
Je crois que c'est un concerto qui est souvent qualifié d'unique ou d'irremplaçable. Il se dit que c'est celui que nombre de violonistes tiennent pour le plus parfait dans tout le répertoire, quand même. Hein. Ce concerto qui est presque, tiens, je vais dire un chant d'amour. Hein. C'est le reflet d'une des périodes les plus heureuses de la vie de Beethoven. On pense qu'un événement privé va rentrer dans la vie de Beethoven. On a influencé l'inspiration. C'est les fiançailles secrètes du musicien avec Thérèse de Brunswick. Quand même, secret, mais un amour secret, mais réel et important. C'est une œuvre que je vais qualifier de chaleureuse. Et qui n'a pas de virtuosité gratuite, j'ai envie de dire. Dans le premier mouvement, il y a un motif rythmique dont l'expression la plus caractéristique est confiée au timbal, ces instruments à percussion sur lesquels tape l'instrumentiste. Et puis ailleurs, il y a un dialogue entre violon et orchestre qui semble improvisé, mais qui offre un moment de poésie entre rêve et réalité. On écoute ?
Oui.
Allez, voici donc un extrait d'un des mouvements du concerto en ré pour violon de Ludwig van Beethoven. Concerto, comme souvent, c'est composé de plusieurs mouvements. Celui-ci en a trois.
Oui.
Ouais, dans les trois mouvements, je crois qu'il y a une belle importance accordée à l'orchestre, sans qu'il s'oppose au soliste. C'est-à-dire, c'est pas le soliste sur son piédestal et l'orchestre qui ne fait qu'accompagner. Ou le contraire, il y a vraiment une osmose.
D'ailleurs, là, le soliste n'était pas encore rentré, d'ailleurs.
Absolument. Raison de plus, vous voyez. On pourrait dire que le soliste, quand même, quand il sera là, il explicite le discours orchestral, et puis avec sa virtuosité, il en renforce l'expression. Il y a vraiment c'est vraiment se concerter là, hein, complètement dans l'ensemble du concerto, qu'on ne peut pas écouter en entier. Tout le monde le comprendra aisément, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et à écouter, à entendre. Mais je crois quand même que nous avons là un bel exemple de complémentarité, vraiment, entre instrument avec un S, et puis entre instrument au singulier, le violon et l'orchestre. Il paraît que le violon n'avait jusqu'alors jamais connu plus belle gloire dans son rôle de concertant. Vous êtes d'accord avec ça ? À l'époque de Beethoven, jusqu'alors, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi important pour le violon.
Oui, sans doute, oui. Même si on peut aussi parler des concertos de Vivaldi, des quatre saisons, et de la place que Bach, par exemple, a consacré au violon dans différents concertos.
Avec une autre écriture, avec d'autres intentions.
Les concertos de Mozart également sont fabuleux.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses quand même hein, dans le monde de la musique. Le deuxième extrait que vous avez choisi, c'est du Gounod. Qu'est-ce que c'est de Gounod ?
Alors, de Gounod, c'est un extrait du Faust, qui est l'opéra le plus célèbre de Gounod. Alors, c'est une façon aussi de faire allusion à l'une de mes passions dans la musique, qui est l'opéra, on en parlait tout à l'heure.
Oui.
Donc Faust est une légende médiévale, évidemment, connue. Goethe en a fait une superbe pièce qui a inspiré beaucoup de grands compositeurs, comme Schumann, comme Berlioz et comme Gounod. Et pendant toute une période, encore un peu aujourd'hui, mais il y a surtout une trentaine d'années, Faust était l'opéra français le plus quasiment joué au monde avec Carmen. Aujourd'hui, on peut considérer que Carmen est un peu plus souvent joué que Faust. Et j'ai découvert aussi cet opéra, là aussi, pour des raisons un peu familiales, puisque comme je le disais tout à l'heure, ma mère était répétitrice des chœurs au théâtre, et de Calais, et... Faust était en train d'être monté, et là, encore une fois, à l'âge de 7 ou 8 ans, elle m'avait emmené un peu en douce, m'asseoir dans une fond de la salle pour assister aux répétitions, tout discrètement et un peu timidement. Et j'étais fasciné par ses voix, par ses chanteurs, par cette musique aussi. Et je me suis passionné notamment pour cette œuvre de Gounod, que j'ai ensuite joué comme musicien d'orchestre quand j'étais plus jeune. Et ensuite, à la trompette, oui, qui était mon instrument quand j'avais à partir de 15-16 ans. Mmh. Et ensuite, quand je suis devenu chef d'orchestre, je l'ai très souvent dirigé. C'est un opéra qui revenait régulièrement dans les saisons lyriques. Je disais parfois en plaisantant que pour un pari, parce que je ne prendrais pas le risque, mais je pourrais diriger cet opéra par cœur aujourd'hui, tellement je l'ai joué et dans tout type de production. Donc ici, c'est la scène du jardin. Mm-hmm. C'est le moment où on sait que Faust, c'est un pacte diabolique entre Méphisto, le diable, et Faust, le vieux docteur Faust qui veut redevenir jeune et qui va le faire redevenir jeune. Moyennant évidemment la vente de son âme pour l'éternité.
Et donc là, voilà. C'est terrible. Quel dilemme. Ouais.
Et donc là, c'est un quatuor assez étonnant où chaque personnage dialogue un peu. Faust drague, on peut dire, Marguerite, puisque c'était l'objectif de son retour à la jeunesse pour lui, pendant que Méphisto s'efforce de corrompre la nourrice plutôt de Marguerite.
Alors là, je crois qu'on a Faust, voilà, qui est chanté par un ténor. Oui. Marguerite, c'est une soprano. Méphisto, Félès, c'est une basse.
Oui.
Et puis
Marthe,
mezzo, donc, qui est Marthe,
c'est
une soprano, c'est ça.
C'est cela. Oui.
Et la distribution, dans ce que nous allons entendre, c'est Nicolas Guéda quand même, Victoria de Los Angeles, Boris Christophe, Rita Gore. C'est André Quittens qui est chef d'orchestre.
C'est une des plus fabuleuses versions de Faust. Oui.
Et puis c'est l'orchestre et les chœurs du Théâtre National de l'Opéra de Paris. Il y a deux auditeurs qui ont dit des choses qui, moi, m'ont semblé intéressantes sur l'interprétation que nous allons entendre, au moins un extrait. Il y en a un qui dit « Pour moi, le chant de Victoria de Los Angeles, avec un phrasé tendre, pudique, virginal, atteint le sublime. »
Je suis tout à fait d'accord.
Et l'autre dit « C'est la distribution idéale. » Alors bon.
Nicolas Higueda, qui a chanté Faust pendant 30 ans, 40 ans de sa carrière, peut-être même plus, était extraordinaire aussi.
Ouais, puis il faut aussi, par rapport à ce qu'on va entendre, vanter la qualité de l'enregistrement, parce que c'est un enregistrement de 1958, qui est une année qui m'est très chère, je dois le dire, et une très belle année. Et puis, avis à celles et ceux de ma classe, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, le soir de la première de Faust, les commentaires sont élogieux plutôt, même s'il y a toujours quelques réserves, bien sûr, mais ces réserves sont vite dépassées par les louanges et le public bourgeois du Second Empire se laisse complètement séduire. Et au final, rares sont les opéras qui auront connu un sort aussi enviable que le Faust de Gounod. Il y en a eu d'autres, hein, vous le disiez, il y a le Damnation de Faust de Berlioz, etc., etc. Mais rendez-vous compte, pour celui-ci, un réel succès dès la première, une carrière internationale dans la foulée, puis un règne ininterrompu sur les scènes du monde entier, qui lui vaut encore aujourd'hui, vous le disiez Eric tout à l'heure, d'être avec Carmen, l'opéra le français le plus joué au monde. Encore que pour Carmen, il faut distinguer, je crois, entre l'opéra et les suites d'orchestre qui sont souvent très, très jouées aussi. Mais finalement, dans cet opéra, faut-il prendre ce Faust au pied de la lettre? Ou bien doit-on y voir, au détour de la fable, une grande célébration des plaisirs? Un seul exemple, la ronde démoniaque, quand même, du Vaudor, conduite par Satan, en personne, non?
Oui, bien sûr. Oui. Gounod en a fait... a quitté, s'est éloigné beaucoup de la légende médiévale. Il en a fait un drame bourgeois de la fin du 19e.
Et puis il y a Marguerite qui rit de se voir si belle en ce miroir. Le spectateur, finalement, il peut goûter à tous les excès ou presque, s'enivrer de musique, sans pour autant risquer la damnation qui sera réservée à Berlioz.
Faust. Faust est quand même damné à la fin de l'ouvrage.
Absolument. Mais je parle du titre,
le titre
de la Nation de Faust de Berlioz. Il y a peut-être là comme une contradiction quand même qui n'a pas échappé à l'analyse de Denis Podalydès, lui qui a mis Faust en scène à Lille.
Très belle, très très originale et forte version. Oui.
Il voit, lui, un opéra fondamentalement anti-puritain dans un monde puritain à l'époque. Hein. Oui. Et puis, cet opéra, il épouse le code religieux de ce monde, celui qu'il feint d'observer. Et je crois que le mot feindre, vous savez, a toute son importance. Et puis, avant qu'on écoute, je ne peux m'empêcher de rapporter le commentaire entendu lors de la sortie d'une représentation. Un auditeur qui dit à son voisin, « Faust, c'est un vieux qui a eu un coup de chaud. » C'est pas mal, hein, comme définition.
Oui.
C'est un beau résumé. Allez, on écoute. C'est maintenant.
Oui, je le crois.
Vous n'entendez pas.
Ne m'accusez pas. Ne m'accusez pas si je vois.
ciel.
On le disait tout à l'heure, comme Gounod, Berlioz était fasciné par le Faust de Goethe, l'écrit original ou originel. Il en a conçu, lui, une œuvre magistrale, La damnation de Faust. Je vous rappelais le titre il y a quelques instants. Alors, ben, j'ouvre une parenthèse inévitable. La composition a été portée aux oreilles d'un large public, je parle de celle de Berlioz, puisqu'elle intègre la bande-son d'un film ô combien célèbre, La Grande Vadrouille, avec un Louis de Funès au meilleur de sa forme dans le rôle du chef d'orchestre quelque peu tyrannique. Pas commode le garçon hein, dans ce film-là. Eric, il se dit qu'il existe trois catégories de chefs. Et finalement, c'est la caricature de Louis de Funès qui m'y fait penser. Ceux qui laissent jouer l'orchestre, ceux qui font jouer l'orchestre et ceux qui empêchent l'orchestre de jouer. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Oui, c'est une façon de catégoriser les... Mais ça, de fait, c'est relativement vraisemblable, même si la réalité...
J'aime bien le relativement.
Voilà, si la réalité est un tout petit peu plus complexe. Disons qu'un un chef d'orchestre, selon ma conception, c'est deux types de tâches. Quoi. C'est d'abord un metteur en musique, comme on dit, metteur en scène. C'est celui qui interprète une œuvre, c'est celui qui a pris le temps aussi de s'en faire une conception.
Alors, pardon, excusez-moi, je vais interrompre deux secondes. S'en faire une conception, ça veut dire quoi ? L'écouter, la lire ?
La lire, la travailler, s'efforcer de voir, y compris les sources, ce qui a pu inspirer. J'évite au maximum, même si aujourd'hui ça serait stupide de s'en priver, d'écouter des 50 versions, voilà, donc de pouvoir aussi se faire sa propre conception, même si évidemment, en ayant aujourd'hui à notre disposition des enregistrements fabuleux de la plupart des œuvres et dans toutes les versions, c'est dommage de s'en priver. Donc c'est celui qui va bâtir cette conception-là, qui arrive aux premières répétitions avec une idée relativement, j'insiste sur le relativement, précise de l'œuvre. Et le deuxième rôle, au moins aussi important, c'est, on va dire, un animateur d'équipe. Celui qui va faire jouer ensemble, faire chanter ensemble pour des œuvres lyriques, faire jouer ensemble des instrumentistes, pour, en leur donnant évidemment, les aidant à avoir une direction musicale. Mais cette dimension humaine, elle est indispensable. En tout cas, pour moi, elle est radicalement opposée à l'idée d'un chef d'orchestre qui serait dictateur, comme il y en a eu pas mal dans le passé, comme il y en a, je pense, un peu moins aujourd'hui.
Que penser des mots d'Arturo Toscanini, un musicien et chef d'orchestre aussi, qui disait à propos des chefs d'orchestre que pour lui, il y avait deux sortes de chefs d'orchestre. C'est lié à la partition dont vous parlez tout à l'heure, ou l'étude de la partition. Ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition. Il y a une opposition flagrante en mesant...
Oui, on pourrait dire que les premiers sont les chefs d'orchestre et les deuxièmes ne le sont pas. Alors c'est intéressant Toscanini parce qu'il a cette réputation de dictateur. Effectivement, oui. On a des enregistrements de lui, des témoignages de lui où il pouvait être d'une violence verbale vis-à-vis de ses musiciens. N'empêche qu'il avait une très grande force, Toscanini, c'était de saisir ce qu'était la personnalité de ses orchestres, la personnalité de ses musiciens, et à travers ou au-delà de cette posture un peu dictatoriale réelle d'une certaine manière, il était capable de laisser les uns et les autres s'exprimer. C'était un peu paradoxal, je dois le dire.
Extraire la substantifique moelle de ce que peut faire chaque musicien.
Voilà, permettre à chaque artiste, à chaque instrumentiste de chanter, de donner le meilleur de lui-même et de contribuer ainsi un meilleur résultat final. Mais évidemment, le chef d'orchestre, c'est celui qui a une vision globale et qui, à un moment donné, va devoir arbitrer ou développer, promouvoir ses choix musicaux, puisqu'il y a une cohérence qu'il faut donner quand on a 50, 60, 70 personnes qui doivent jouer et chanter ensemble. Mmh. Évidemment, ça ne peut pas être simplement une superposition ou une accumulation des choix.
Des équilibres à trouver,
voilà,
des
équilibres,
des priorités peut-être.
Voilà, des tempos surtout. Ouais. Hein. Le chef d'orchestre aussi, c'est un batteur de mesure, hein. C'est celui qui aussi bat la mesure pour tout le monde, et il faut aussi qu'il puisse travailler là-dessus. Il reste, pour partir, reprendre votre remarque du début, que l'un des plus grands bonheurs pour un chef d'orchestre, à titre tout à fait personnel, c'est quand le chef d'orchestre peut arrêter de battre la mesure et laisser l'orchestre jouer, quoi. Quand on a bien travaillé et que l'œuvre s'y prête, qu'est-ce que c'est agréable de laisser l'orchestre jouer et puis de réintervenir seulement quand on en a besoin.
Voilà. Lâcher les rênes, voilà. C'est un plaisir aussi. C'est du partage là aussi, parce que quand on est capable de ne pas donner l'indication, ça veut dire qu'elle est ancrée, ça veut dire que les habitudes sont prises, ça veut dire que l'écoute des autres est là. Il y a quand même des chefs d'orchestre qui me surprennent. Alors j'ai oublié le nom, j'avoue, à ma grande honte, mais il y en a un que j'ai entendu dire, en présentant une œuvre qu'il allait diriger, il a dit, avant de monter devant l'orchestre, hein, « Je vais vous interpréter », et il citait l'œuvre après. Et ça m'a surpris.
À l'orchestre ? Oui, c'est curieux comme phrase.
Chef d'orchestre, je vais vous interpréter. J'étais assez surpris.
C'est au minimum maladroit, oui. sur le plan de la gestion d'un groupe.
Oui. Un même orchestre ou une même œuvre avec deux chefs différents, est-ce que ça fait deux résultats différents ?
Très souvent, oui.
Un chef, une même œuvre et deux orchestres différents, ou deux chœurs, deux résultats différents aussi ?
Oui, parce que d'abord, il y a des histoires, des traditions d'orchestre. Il y a des cultures qui sont installées. Les orchestres italiens, les orchestres viennois, allemands, russes, américains,
français,
ne sont pas de la même manière. D'ailleurs, les factures d'instruments, pendant longtemps, ont été assez différentes, même si aujourd'hui, c'est aussi on peut le regretter, c'est aussi une logique de la mondialisation et de la standardisation internationale des produits culturels. Ouais. Il y a une tendance, malgré tout, à une certaine uniformisation des interprétations, mais des grandes personnalités, certains chefs et surtout les personnalités des instrumentistes ou des chanteurs permettent aussi de conserver cette spécificité de chaque interprétation.
Ça veut dire que tel ou tel orchestre possède un son particulier, une manière de jouer qui lui est propre ?
Des grandes traditions. Tout le monde sait que l'orchestre de Vienne a une tradition bicentenaire maintenant, qui se transmet de génération en génération, comme l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, sans parler de l'orchestre de Berlin, et même de l'orchestre de Paris ou de l'orchestre national de France, même si leur tradition est un peu plus récente sur le plan historique. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'un chef d'orchestre a une manière de diriger qui lui est particulière, ou est-ce qu'il emprunte à d'autres, ou est-ce qu'il peut copier d'autres ?
Alors, on suit une formation, on a des cours de direction, on fait des études de direction d'orchestre, donc qui vont nous permettre de maîtriser des gestes, par exemple, parce qu'il y a certains gestes qui vont être compréhensibles ou moins compréhensibles par les instrumentistes. Donc il y a certaines techniques qu'on apprend. Moi, j'ai envie de dire aussi que l'important, puisque c'est un métier quand même physique, d'une certaine manière, c'est aussi de trouver les gestes qui vont correspondre à sa propre corpulence physique. Moi, personnellement, je ne suis pas un géant, je ne dépasse pas le 1m71, c'est évident que je ne dirigerai pas de la même manière qu'un grand chef dégingondé d'1m98 qui devra trouver aussi des gestes correspondants à sa propre corpulence. Mm-hmm. C'est aussi, d'une certaine manière, il y a une dimension...
C'est aussi la part de l'humain, finalement.
L'humain, presque une dimension chorégraphique dans le métier de chef d'orchestre, puisque c'est, outre son impact sur le travail des artistes, c'est aussi celui qui va traduire, mais au sens étymologique du terme, interpréter, au sens qui va faire passer l'œuvre qui est jouée au public. Le public, lui, n'a pas la partition. D'une certaine manière, il a l'orchestre et la chef d'orchestre sous les yeux, qui vont être aussi son interprète, mais comme on parle d'un interprète d'une langue étrangère.
Oui, quelque part. Est-ce que quand on entend une œuvre, on peut dire, tiens, ça c'est l'orchestre de... ou ça c'est dirigé par... telle ou telle personne. Ça, on peut aller jusque-là ?
Oui, moi, je ne suis pas, j'ai jamais été un fou de discographie et de. J'ai souvent, comme beaucoup de musiciens d'ailleurs, j'écoute de la musique, mais j'en lis surtout, j'en travaille, j'en joue. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste des discographies, comme peuvent l'être certains journalistes d'émissions sur France Musique, la Tribune des critiques de disques. Donc, il semblerait que ça soit possible. Je pense que c'est possible, en tout cas, des grandes catégories d'interprétation. Par exemple, la musique de Beethoven, de Mozart, sans parler de la musique baroque, qui aujourd'hui est de plus en plus, sinon exclusivement jouée sur des instruments, comme on dit, historiquement informés, c'est-à-dire on reconstitue les instruments de l'époque, parce qu'ils n'étaient pas du tout identiques à ceux d'aujourd'hui. Là, évidemment, ça a un grand impact sur le résultat de l'interprétation.
Revenons deux secondes à Berlioz, s'il vous plaît, parce qu'il a avoué avoir admiré plusieurs moments de la partition, plusieurs grands moments de la partition de Bouneau, selon ses termes. Parmi eux, ce fameux quatuor de la scène du jardin, qu'on entend au troisième acte. Et voici ce que Berlioz disait. « Cette charmante demi-teinte, ce clair de lune musicale, caresse l'auditeur, le fascine, le charme peu à peu, et le remplisse d'une émotion qui va grandissant jusqu'à la fin. » Les termes sont bien choisis, non ?
S'il en était besoin, c'est facile de constater que Berlioz parle beaucoup mieux de moi que moi des œuvres qu'il chérissait.
En tout cas, c'est un bel hommage.
Ah, très formidable.
Et puis cet hommage pourrait peut-être s'étendre à l'ensemble de l'opéra, de Gounod, saluant un croisement, je veux dire, entre les recherches mélodiques, un croisement ciselé et puis un raffinement d'orchestration, vraiment. Je crois que, en tout cas, ça c'est mon avis, je ne sais pas si c'est bien dit.
Gounod avait un sens mélodique fabuleux, ça c'est vraiment c'est le grand, avec Massenet d'ailleurs, c'était les deux grands mélodistes français qui savaient écrire pour la langue française de manière exceptionnelle à l'époque. Ils seront presque égalés, voire dépassés un peu plus tard, mais nous y reviendrons, je crois, par Debussy.
Donc quand on entend les paroles rapportées de Berlioz sur ce qu'il pense de Gounod, on voit que des musiciens peuvent s'apprécier, peuvent s'admirer. Ça arrive, ça ?
Ah ben oui, quand même.
Et pourtant, le premier ennemi d'un musicien, c'est pas l'autre musicien, celui qui est assis à côté de lui ?
Moi non. Je crois que j'espère ne jamais avoir eu d'ennemis dans ce monde merveilleux de la musique.
C'était pour le clin d'œil. Léon Escudier, c'était un journaliste, violoniste et éditeur et critique musical. En parlant de la partition de Gounod, il a parlé d'une merveilleuse adresse dans le maniement des instruments, comparant ce qu'il entendait à une marqueterie charmante, à une splendide mosaïque. Moi, j'aime beaucoup l'image, vraiment.
Oui.
Deux questions. Peut-être les allez-vous venir, Eric. Un musicien, un seul à citer. Lequel ? Comme ça, sans réfléchir. Aucun. Le grand silence s'installe.
Oui, j'en ai...
Un seul. Allez, il n'en faut qu'un. Allez, on y va.
Il n'en faut qu'un. Debussy.
Un seul chef d'orchestre. Le silence s'installe.
Leonard Bernstein. Voilà.
Quant à moi, je vais quand même évoquer la jeune génération des chefs, même si Eric, nous sommes à peu près de la même classe, mais je veux dire que plusieurs me semblent talentueux, et je vais en citer une en particulier, Bar Avni, je ne sais pas si vous la connaissez,
oui.
Directrice musicale du Bayer Philharmonica de Leverkusen. C'est un réel plaisir que de la voir à l'œuvre et d'entendre le résultat de son action. Évidemment, je vais oser dire que si on est d'accord, elle sera l'invitée de donner nos notes dès que possible. Pourquoi pas,
hein ? Je m'inviterai pour que je puisse la rencontrer avec un immense honneur et plaisir.
Allez, on écoute autre chose, on passe à la trompette, puisque c'est un instrument qui vous est cher.
Oui.
Allez, qu'est-ce que c'est qu'on va écouter ?
Alors, c'est un extrait de la première grande œuvre du classique pour trompette. Elle est de Joseph Haydn. C'est un extrait du concerto pour trompette. Donc c'est une jolie œuvre. Haydn est un très grand compositeur. Et c'est aussi pour moi, évidemment, un petit clin d'œil à ce qui fut pendant un temps mon instrument de prédilection. Et c'est un concerto que j'ai pu jouer à ma toute jeune époque de trompettiste.
Et après, vous avez arrêté cette activité de trompettiste pour devenir directeur de conservatoire.
À la fois quand j'étais chef d'orchestre, directeur de conservatoire.
À 23 ans, m'a-t-on dit.
Oui.
Ah, C'est jeune, non, pour un directeur?
Ah bah oui, c'était, j'étais à l'époque, j'étais le plus jeune directeur de conservatoire de France, mais en même temps le plus jeune directeur de l'histoire des conservatoires. Mais par définition, c'est un statut qui ne dure pas, le fait d'être le plus jeune.
Ah bon? Le non. Temps passe pour vous aussi, pour tout le monde.
Eh bah oui.
Allez, on écoute. C'est maintenant, c'est un extrait du concerto pour trompette de Joseph Haydn. Le temps de placer l'embouchure. Alors on a entendu ici un David Guerrier avec l'Orchestre des Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, au Festival de l'EPO, c'est-à-dire à côté du Mans. David Guerrier, il est trompettiste et corniste, encore un multi-instrumentiste.
Fabuleux, oui.
Ouais. Ce concerto est dédié à un trompettiste, Anton Weidinger, musicien à la cour de Vienne, et c'est lui qui a inventé, je crois, une trompette à clé.
La première trompette qu'on appelait chromatique, oui, effectivement, ouais. Qui permettait de jouer ce répertoire. Oui.
Capable de jouer tous les degrés de la gamme chromatique, c'est ça, d'une manière juste, la plus juste possible en tout cas, parfaitement juste, il reste jusqu'à dire. Et c'est cette invention qui a, paraît-il, motivé Haydn à écrire cette partition spécialement pour lui. Ça veut dire que, Eric, s'il vous plaît, l'instrument avec lequel vous avez débuté, il pouvait être faux avant, alors?
Non, avant il y avait ce qu'on appelait la trompette naturelle. Enfin, la trompette chromatique existe depuis Haydn, hein, oui. Et elle a beaucoup servi. Mais la trompette naturelle, c'était une trompette donc sans piston, qui faisait uniquement certains sons. Alors pour simplifier de manière très outrancière, oui. Comme un clairon d'une certaine manière, on fait différents sons, plus ou moins graves, etc. Et pour quand on changeait de tonalité ou de couleur dans les échelles musicales, oui. On devait ajouter des tuyaux, des pompes, comme on disait, des rallonges, et donc ça empêchait de jouer un répertoire très rapide, plutôt très fin sur le plan des hauteurs de son, sauf dans l'aigu ou dans le suraigu, hein, pour faire très très simple. Et à partir du moment où la trompette a été inventée avec des palettes pour dans la facture allemande ou avec des pistons dans la facture française, ça a permis de jouer tout type de musique, y compris la plus virtuose.
Alors, on revient au mot concerto, parce que je me souviens avoir entendu parler de concerto grosso. En un seul mot, grosso. Hein. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça,
concerto grosso, donc ça, c'est plutôt attaché à la période baroque. Ouais. Et généralement, c'est quand il y avait un groupe, il y a plusieurs possibilités, mais ouais. C'est généralement quand il y a un petit groupe de solistes qui jouait évidemment en soliste, mais qui était plus relativement intégré et qui alternait très rapidement avec l'ensemble de ce qu'on appelait le tutti, c'est-à-dire l'ensemble de l'orchestre.
Okay. Et les quatre saisons de Vivaldi, je crois que ça appartient à la catégorie des concertos, n'est-ce pas? Je crois que c'est même quatre concertos.
Quatre concertos pour violon parmi la trentaine de concertos pour violon que Vivaldi a écrit. Et ça reste des chefs-d'œuvre, mais même si on les entend beaucoup dans les attentes téléphoniques.
Donnez-nous vos notes, c'est sur R-R-R-D-D-D-C-C-C-C. Tout à l'heure, Eric, je vous ai demandé le nom d'un musicien, vous m'avez cité lequel déjà? Debussy, je crois, non?
On va parler de lui. Si vous en souvenez plus, ça me permet de changer et de donner la trentaine ou la quarantaine d'autres auxquels j'ai pu penser tout à l'heure. Mais c'était Debussy que j'avais cité.
L'air de Geneviève, extrait de Péléas et Mélisande. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on va entendre?
Alors Péléas et Mélisande est un opéra, le seul opéra de Debussy, qui a été écrit et composé en 1905 par le grand compositeur Claude Debussy, l'un des plus grands compositeurs français. Mmh. Alors c'est un opéra étonnant. Alors, d'abord c'est un immense chef-d'œuvre. Il a été écrit d'après une pièce de Maurice Maeterlinck, une pièce en prose. Et c'est un des premiers exemples où l'opéra a été écrit en prenant l'œuvre de Maeterlinck telle qu'elle, c'est-à-dire sans adaptation, sans la versifier, sans l'adapter, et en la traitant musicalement. Elle est d'ailleurs d'un niveau artistique et supérieur. Enfin, l'opéra de Debussy est d'une certaine manière supérieur à la pièce de Maeterlinck qui ne se joue quasiment plus. Mm-hmm. Et donc c'est un chef-d'œuvre pour moi absolu, à la fois pour la musique de Debussy qui crée à la fois des ambiances, des tensions, un sens de la suspension du temps qui est fabuleux. Et c'est peut-être ce qu'on peut essayer de retenir dans l'air qui va venir ici. Debussy a été sans doute le compositeur qui a le mieux écrit pour la langue française. La langue française a une difficulté particulière quand elle est chantée, parce que contrairement à l'italien, par exemple, ou même l'allemand, c'est une langue. La langue française n'a pas une accentuation intrinsèque liée à la langue. Il n'y a pas d'accent. Ce qui fait qu'elle est très difficile à construire sur un discours musical. C'est ce qui fait d'ailleurs que même en français, parfois...
Je veux dire que c'est moins chantant que d'autres langues.
Finalement. C'est ce que certains peuvent dire, même si, évidemment, il y a des contre-exemples. Mais c'est vrai que par rapport à l'anglais, par rapport à l'italien, par rapport à l'allemand, qui sont des langues rythmées d'une certaine manière, avec des accents toniques, il n'y a pas cette accentuation naturelle dans le français. Et Debussy a su saisir toutes les inflexions de la langue, et il a écrit vocalement, musicalement, ce qu'il a écrit pour les chanteurs dans Pélas et Mélisande correspond exactement aux intonations de la langue française. J'ai souvent envie de dire qu'on n'a pas fait mieux depuis. Quand j'écris, moi, pour les voix, ça m'arrive comme compositeur, et que j'essaye le mieux possible d'être au plus près de l'intonation du français, j'ai toujours un malaise à la fin en disant « mais je ne ferai jamais mieux que Debussy. Est-ce que c'est la peine que je continue ?»
Mais parce oui, bien que, sûr. Allez-y, voilà. Allez-y. 100 fois sur le métier. Quelques mots sur l'histoire. Après avoir rencontré Mélisande, une créature fragile et énigmatique, au cours d'une chasse en forêt, le prince Golo l'a épousée sans rien savoir d'elle. Puis il l'a présentée à son demi-frère, Péléas. Et là, les ennuis commencent. Entre Mélisande et Péléas, il y a un lien secret qui s'est tissé d'emblée, pratiquement. Il est fait d'abord évidemment de regards et de complicité, d'amour naissant peut-être. Golo se met à épier Péléas et Mélisande. Il recommande d'abord à son demi-frère d'éviter son épouse, puis il ne tarde pas à menacer fermement, dévoré par la jalousie. Et Péléas et Mélisande finiront par s'avouer leur amour. Au moment où ils s'embrassent, Golo, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort son épée et il tue Péléas. L'amour, toujours l'amour. Et la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on écoute là comme interprétation ?
Alors ça, c'est l'air de Geneviève, qui, la mère, qui explique à Arkel, le vieux sage, la lettre que Golo a écrit, ouais, à son frère Péléas, au début de cet amour naissant dont vous parliez. Et donc j'ai voulu cet enregistrement, parce que là aussi c'est un enregistrement historique, pour moi c'est le meilleur de tous les temps, avec notamment, enfin sous la direction de Desormières. Mmh. Donc c'est le grand enregistrement qui fait aujourd'hui.
C'est Germaine Cerné qu'on va entendre, c'est ça ?
Absolument, ouais. Et donc là, j'espère que les auditeurs et auditrices entendront ce que je pouvais dire tout à l'heure sur la qualité, ouais, de la prononciation du français chanté.
Même si la façon de chanter a évolué avec les
oui,
années.
Oui, la voix est un peu plus pincée.
Allez,
qu'aujourd'hui.
Mais... C'est maintenant. Vraiment, il y a une façon particulière de chanter qui a changé aujourd'hui. Oui. Mais je crois que fondamentalement, vous avez raison.
Mais qu'est-ce que c'est beau.
On entend les, je vais dire, les sons de la langue qui sont tous mis en musique au sens de leur, au service de leur continuité, finalement. Et ça, c'est, je trouve, du grand art. Qu'est-ce qu'un quatuor ? Un quatuor, c'est un ensemble de musiciens ou un ensemble de chanteurs. Mais pour l'heure, ça va être un quatuor
à cordes.
Ici, oui. De Webern, c'est ça ?
Oui.
Lequel ?
Alors, c'est le quatuor à cordes de Webern, qu'on qualifie par son opus, c'est l'opus 28. Donc, ça fait partie de ses dernières œuvres, Anton Webern, qui peut être un compositeur que... J'aurais pu citer tout à l'heure parmi les compositeurs que je retenais.
Un regret.
Non, mais là, on est dans une musique évidemment très, très différente. Ouais. Parce que Webern fait partie de ce qu'on appelle la seconde école de Vienne, avec Schönberg et Alban Berg. Hein, donc, ce sont des musiciens de la première moitié du XXe siècle qui ont complètement repensé, révolutionné le langage musical issu du romantisme. En sortant de ce qu'on appelle la tonalité, alors pour faire simple, la tonalité, c'est une musique, c'est tout ce qu'on vient d'entendre, où il y a des repères, des appuis qui reviennent, des notes qui...
Dans une gamme, etc.
Voilà, avec des gammes. Et là, l'idée, c'est que chaque paramètre de la musique, les sons, les durées, etc., soit en opposition, soit distinct, soit également à la fois mis sur le même plan, ce qui donne une musique qui est à la fois très, très tendue, jamais en repos, avec des tensions qui ne se résolvent jamais. J'ai souvent envie de dire que ce quatuor opus 28, par exemple, qui date de 1938, par un compositeur autrichien, si on fait une petite référence historique, a été composé au moment même de l'Anschluss, c'est-à-dire l'arrivée des troupes d'Hitler qui annexaient l'Autriche. Et je pense que c'est une musique qui n'est pas étrangère aussi à ce que pouvaient être aussi les tensions, les conflits,
dans son temps, forcément,
les drames,
à l'époque.
Voilà, la barbarie d'une certaine manière de l'Europe centrale et de toute l'Europe d'ailleurs.
Alors
à l'époque.
Ce quatuor, c'est la dernière œuvre de musique de chambre
de Webern.
Oui. C'est aussi la quatrième qu'il a écrite pour un quatuor à cordes. Et la composition résulte d'une commande d'une mécène américaine, Elizabeth Sprague Coolidge. Eric, le quatuor, c'est une formation plutôt qui a inspiré beaucoup de compositeurs, il me semble. Quatuor, ça veut dire violon 1, violon 2, alto, violoncelle, c'est ça ?
Oui, alors les grands quatuors, il y a Haydn, dont on en parlait tout à l'heure.
C'est le papa du
quatuor. Il y a Mozart, il y a les 15 quatuors, enfin 14, 15, 16, ça dépend comment la nomenclature de Beethoven, qui sont en passant par Brahms, etc., jusqu'au
Ravel, Fauré,
Ravel et Bartok, bien entendu, plus récemment, et puis qui inspire encore certains compositeurs aujourd'hui.
Ouais, depuis quelques temps, moi je voudrais citer une opération qui me semble intéressante, c'est la Nuit des Quatuors, je ne sais pas si vous connaissez ça, Eric, organisée à Paris au musée de l'Orangerie ou dans d'autres endroits, la Cité de la Musique parfois, en tout cas dans l'amphithéâtre de cette belle Cité de la Musique, on entend des quatuors existants, mais aussi des créations, et c'est important de faire vivre la musique d'aujourd'hui.
Absolument.
Pour l'instant, en tout cas, voici le quatuor de Anton Webern, c'est le quatuor opus 28, c'est maintenant. On continue avec un autre quatuor, mais il est extrait de Rigoletto de Verdi, compositeur ô combien célèbre. Rigoletto, qu'est-ce que c'est ça, Rigoletto ?
Rigoletto, c'est un opéra donc de Verdi, inspiré de la pièce de Victor Hugo, Le roi s'amuse. Et voilà, un drame absolu. On ne va pas détailler ici l'histoire et le livret, mais c'est vraiment...
Je vais dire quelques mots tout à l'heure.
Oui, on est dans l'horreur absolue. Ouais. Et ce quatuor, c'est sans doute le plus impressionnant, voire génial quatuor vocal dans le répertoire lyrique, en tout cas au 19e siècle.
Ouais. Et on dit que lorsque Verdi vient présenter son ouvrage à l'Opéra de Paris, il y a Victor Hugo, le grand écrivain, qui était bien décidé à s'y rendre pour protester vigoureusement, parce qu'il n'était pas d'accord pour que son œuvre soit, entre guillemets, pillée. Hein, il faut savoir qu'il était un grand militant en faveur des droits d'auteur, même si à cette époque-là, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais quand il a entendu le quatuor, il paraît qu'il a renoncé à sa protestation et il a prononcé ces quelques mots. Quatre personnages qui disent en même temps des choses différentes, et grâce à la musique, on comprend tout. Jamais je ne pourrai aussi bien faire au théâtre. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus,
quoi ? Ouais, j'aurais pu écrire cette phrase.
Ah ben ça va, vous pouvez avoir des références pour les futures émissions, Eric, quand vous reviendrez nous voir. En tout cas, c'est un opéra de l'époque de la maturité de Verdi, c'est le premier volet d'une trilogie dite populaire.
Ouais, avec Traviata et le Trouvère.
Populaire parce que les mélodies sont, je vais dire, ravageuses, hein, quand même. Elles se succèdent à un rythme effréné avec des airs et des chœurs qui sont d'emblée passés dans la mémoire collective. C'est aussi une des clés du succès, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on écoute donc le quatuor, c'est ça ?
Oui.
Alors c'est maintenant ?
C'est maintenant le quatuor.
C'est parti. Auditrice, auditeur, je vais vous faire une confidence. Vous ne pouvez pas le voir, mais moi je le vois. J'ai en face de moi un chef d'orchestre qui fait les gestes de direction devant un orchestre imaginaire pour certaines entrées et certains extraits qu'il a choisi de nous faire entendre. À quoi ça tient, ça, Eric ? On revit les choses ?
Non, ça tient au fait que c'est le matin et que j'ai du mal à me surveiller.
Ah, ça va mieux. Alors la prochaine fois, on fera l'émission l'après-midi, alors. L'histoire de Rigoletto, quelques mots. Bon, Rigoletto, c'est le bouffon du duc de Mantoue, bien connu pour être un séducteur, ce duc dépravé, prodigué. Et le bouffon, il protège secrètement sa fille Gilda des regards et des dangers que cela peut faire advenir. Alors, la malédiction du comte Monterone à son égard, elle terrifie Rigoletto, dont le costume de bouffon de cour cache en fait un père aimant et protecteur. Séduit par le duc de Mantoue, puis enlevé par les courtisans qui l'amènent jusqu'à la chambre de leur maître, Gilda s'enflamme pour son amant volage, celui qui pour elle est son premier amour. Mais Rigoletto, le père, s'estime déshonoré, et il entreprend de se venger du duc, qui court très vite séduire d'autres femmes après Gilda. Alors le bouffon engage un spadassin pour qu'il tue le duc en pleine nuit. Mais c'est sans compter sur Gilda qui, totalement éprise du duc, son duc, se glisse secrètement à sa place au moment où l'assassin doit frapper. Et c'est elle qui tombe sous ses coups. C'est le corps de sa fille que Rigoletto va récupérer, effondré, alors qu'il vient de vivre l'ultime volée de la malédiction de Monterone. Comme vous disiez, c'est l'horreur absolue, non ?
C'est complètement fou.
Et c'est mis en musique magistralement, évidemment. C'est ça qui... Malgré la misère, malgré le drame, c'est merveilleux quand même.
Il y avait une anecdote mais sur l'opéra que je peux raconter. Mmh. À l'époque, à Lille, il y avait deux théâtres, le théâtre Sébastopol et l'opéra. Et généralement, on jouait les opéras à l'opéra et les opérettes au Sébastopol. Et c'était la même équipe technique. Là, je parle de quelque chose d'il y a 40 ans, hein, 40-50 ans. C'était la même équipe technique qui passait d'un théâtre à l'autre. Et un jour, il y a un jeune machiniste qui vient d'être recruté et qui dit à son chef, quoi, à son contremaître, qui lui dit « Oui, mais on parle opérette, opéra, et c'est quoi la différence entre opérette et opéra ?» Le gars dit « C'est la même chose. Au lieu de parler, il chante. La seule différence, c'est que dans l'opéra, il meurt à la fin. » Et dans l'opérette, il se marie.
C'est quand même une belle différence. Il y a quelques contre-exemples, mais bon, allez, généralement, voilà. On va dire que
je trouve que c'est amusant quand même.
J'accorde crédit à cette forme de définition. On reste avec Verdi, on change d'opéra.
Voilà,
on va voir la Traviata ou écouter la Traviata.
Voilà, il fallait bien qu'il y ait un tube dans cette émission.
Au moins,
il y en aura un autre après.
Ouais.
Mais le Libiamo, donc c'est un extrait de la Traviata. Si j'ai proposé, c'est à la fois parce que ça reste de Verdi, peut-être pour deux raisons personnelles. La première, c'est que c'est le premier opéra que j'ai dirigé dans ma carrière. C'était exactement il y a 50 ans.
Bel anniversaire.
Voilà, il y a 50 ans, c'est la première fois que je dirigeais un opéra et c'était donc la Traviata. Et la deuxième raison, beaucoup plus tardive, c'est que c'est un ouvrage que nous avons donné avec la troupe de Figaro Si Figaro Là, dont j'assure la direction musicale, il y a 2 ans, avec Aurélie Ligereau, que vous aviez invité d'ailleurs, Louise Aitoun et Sacha Michon. Ça reste également un très bon souvenir.
Ouais. Et donc, Figaro Là, au fil des notes, ça continue tous les ans, ça existe depuis 25 ans.
La saison lyrique de Figaro depuis 25 ans, et au fil des notes depuis une dizaine d'années, et nous préparons la saison prochaine, l'été prochain, avec d'ailleurs un autre opéra de Verdi, le Bal Masqué.
Et avec Aurélie Ligereau à nouveau, je crois.
De nouveau.
Et peut-être encore d'autres que vous avez cités tout à l'heure, non, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais, en tout cas, il faudra leur dire, je leur ai déjà dit, hein, mais qu'ils peuvent être invités un jour de cette émission, bien sûr. Les auditeurs qui ont, nombreux, qui ont écouté... La Libiamo de la Traviata ont évidemment formulé des impressions. J'en retiens 3. Le premier, auditeur qui dit « ça me transporte dans une autre dimension ». Le deuxième, « je suis à la fois rempli de nostalgie et d'une joie immense ». Ça, je trouve ça très fort quand même. Et le troisième, « je ne comprends toujours pas pourquoi, mais je l'aime, l'œuvre, de tout mon cœur ». Je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais je l'aime de tout mon cœur. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement, finalement.
Oui, c'est aussi c'est un chef-d'œuvre fabuleux à la fois de construction musicale, mais aussi de construction dramatique. Et c'est intéressant, l'auditeur qui dit que dans le Libiamo, qui est tout début de l'œuvre, voilà, c'est une chanson à boire, de cette manière, et que ça remplit de joie, c'est que d'une certaine manière, ensuite, on sait que la Traviata, ça va se terminer.
Ça va mal finir, quoi. C'est un opéra, c'est pas une opérette.
Oui, et puis c'est parmi les opéras, on peut citer la Bohème, ouais. Par exemple, ou Werther, ce sont des opéras où on a quand même intérêt à venir avec quelques mouchoirs pour le dernier acte.
Ça va mal finir, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, la plupart des opéras, c'est comme ça. Donc, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, puisque j'ai eu la chance de le voir dans l'adaptation que vous aviez retenue pour Figaro Si Figaro Là, c'est qu'il y avait cette rencontre entre le théâtre et l'opéra avec des comédiens sur scène qui parlaient en français, etc.
Voilà, avec le texte de Victor Hugo, d'ailleurs.
Ouais, c'est un travail très intéressant.
Allez, le texte, pardon, pas de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas pour la Traviata. Oui.
C'est mieux. Allez, Libiamo, c'est l'heure? C'est l'heure de l'apéro? Allez, allons-y, c'est maintenant. C'est beau, non? C'est vraiment...
C'est oui. Et c'est comme ça pendant tout le déroulé de l'opéra.
Et oui, ça fait partie des œuvres, en tout cas pour moi, dont on n'a pas envie qu'elles s'arrêtent.
Et on parlait de Faust tout à l'heure. Ouais. Faust, Carmen, Traviata et je crois La Flûte enchantée sont les quatre opéras les plus joués au monde, toutes nationalités confondues.
Ouais. Donc je crois que c'est pour, je ne sais plus lequel opéra, peut-être Carmen. Il y a un Carmen, pardon, dans le monde entier, il y a un Carmen toutes les 10 minutes qui démarre, paraît-il.
Vous savez ça, avec le Boléro de Ravel, ça doit être à peu près le rythme.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Alors, Eric Sprogis sur RDC 93.4-92.5, un pédagogue, un compositeur, un chef d'orchestre, un trompettiste, un pianiste, un violoncelliste, que sais-je encore. On va ouvrir le volet compositeur, même si on y a fait un petit peu référence tout à l'heure, avec un chant que, tiens, je vais le qualifier de lunaire, puisque c'est son titre. Et oui. Pourquoi ça?
Chant lunaire, c'est le titre d'un poème de Henrik du Danemark. Henrik du Danemark est décédé maintenant. C'était le prince consort, donc le mari de la reine du Marguerite du Danemark, et qui était d'origine française, et qui, pas ses heures, parce que c'est une activité auquel il consacrait beaucoup de temps, écrivait des poèmes, pour la plupart en français, certains en danois, mais beaucoup en français. Et l'idée est née à Copenhague de commander à deux compositeurs, un danois et un français, votre serviteur, d'écrire chacun une œuvre sur l'un des poèmes à leur choix de Henrik. Et j'ai choisi donc « Chant lunaire », qui est le titre d'un des poèmes de Henrik, donc, que j'ai composé et qu'on a ensuite joué et enregistré avec une soprano tunisienne, Yosra Zekri, et l'Orchestre National de Chambre du Danemark, et que nous avons enregistré il y a maintenant quelques années. Et voilà, dans d'assez bonnes conditions. J'étais assez heureux, assez fier de pouvoir contribuer à la fois à la culture musicale, au patrimoine musical du Danemark et de la France.
Ouais. Cela. La France, c'est la rencontre. Hein. Voilà. L'art, la musique qui permet la rencontre. Hein.
Voilà, y compris des musiciens, donc tous danois, ce qui était assez intéressant.
Ouais. Donc il fallait parler en anglais.
Non, alors, vous savez qu'en musique, la langue universelle pour la musique, c'est l'italien, donc ouais. La plupart des termes sont en italien, mais je dois dire qu'il y avait quand même un interprète franco-danois qui permettait de me faire comprendre plus facilement que si j'avais fait appel à mes quelques notions d'anglais, et a fortiori de danois.
Vous avez tout à l'heure parlé, Eric, de commande, c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'une commande?
Commande, c'est quand on demande à un compositeur d'écrire quelque chose, soit pour une occasion particulière, soit pour des musiciens ou des interprètes particuliers qui souhaitent avoir pour des raisons.
Donc c'est un cadre donné parfois, c'est ça?
Oui, là le cadre c'était effectivement la composition de l'orchestre. C'est un orchestre de chambre, donc principalement, enfin de cordes, un orchestre à cordes d'une vingtaine de musiciens, avec un piano, c'était le choix, et une soprano, puisqu'il s'agissait d'une mélodie. Donc il fallait que ce soit chanté avec cette chanteuse-là, puisque l'idée c'était pour enregistrer, de faire une émission de télévisuelle d'ailleurs, parce que ça fait l'objet d'une captation, d'un montage et d'un documentaire télévisuel avec cette soprano tunisienne.
C'est Yosra Zekri, je crois.
Yosra Zekri, oui.
Zekri, pardon. Et puis il y a l'Orchestre National de Chambre du Danemark, c'est ça?
Oui.
Il y a un pianiste, Rikke Sandberg.
Voilà.
Et puis le texte donc, du prince Henrik du Danemark, une commande dans l'histoire de la musique, ça me semble assez fréquent, dans toutes les époques, on va dire. Mais quel effet ça fait, lorsqu'une de vos compositions est interprétée? C'est de la fierté, c'est du plaisir, c'est tout ça mélangé?
C'est l'aboutissement d'abord, mais c'est souvent très émouvant. Voilà. Pas simplement d'ailleurs quand c'est ma propre musique. J'ai souvent, comme chef d'orchestre, créer ce qu'on appelle créer des œuvres, c'est-à-dire jouer des œuvres de différents compositeurs pour la première fois. Donc, soit des commandes que j'avais pu passer comme directeur de conservatoire, par exemple, ou que je décidais de créer. Et il y a un côté toujours très émouvant, c'est-à-dire c'est la première fois au monde que vont sortir les sons d'une œuvre qui ont été imaginées par un compositeur. Alors quand c'est soi-même, C'est renforcé par le fait que pendant des mois, on a écrit, on a travaillé, on a entendu la musique dans sa tête, on l'a imaginé, et que lors de la première répétition, on va enfin l'entendre concrétiser du point de vue acoustique.
Lors de la première répétition, ça veut dire que ça peut évoluer d'une répétition à l'autre ?
Oui, Debussy disait, c'est un bon maître pour ça, il disait, le compositeur qui prétend que à la première audition, à la première répétition de son œuvre, ça correspond exactement à ce qu'il voulait, qu'il n'y a rien à changer, soit il est sourd, soit il est menteur.
Soit bon. Les deux.
et donc ça m'a énormément rassuré, et effectivement, quand on commence à jouer, il n'y a aucune raison de s'accrocher sur ce qu'on a voulu. Si on trouve que quelque chose ne sonne pas exactement comme on l'aurait voulu, on le change, et c'est l'avantage.
Bien sûr. Lorsque, Eric, vous prenez part à cette interprétation de quelque chose que vous avez écrit, soit en tant que trompettiste, parce que vous avez dit que c'est par là que vous avez commencé, soit en tant que chef d'orchestre, ça renforce quelque chose encore dans cette émotion ?
Ah oui, évidemment, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est après un peu comme quand on est à la maternité et qu'on attend l'arrivée de son enfant et puis qu'on le voit arriver. Bon, toutes choses égales,
bien sûr,
par ailleurs.
Bien sûr.
Mais en même temps, il y a ce travail-là, d'autant plus que par rapport au travail de chef d'orchestre, encore plus que les œuvres des grands compositeurs qu'on a cités tout à l'heure, quand on dirige et quand on fait travailler sa propre musique, évidemment, on l'a entièrement dans la tête et on sait exactement ce qu'on veut, encore plus que quand on dirige du Verdi ou du Gounod.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Et voici le moment du jeu du jour. Eric, le savez-vous, sur RDC, dans l'émission Donnez-nous vos notes, on joue. Qu'est-ce qui joue ? Toutes les auditrices, tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on gagne deux invitations à assister à une émission de la série Donnez-nous vos notes, dès que le gagnant ou la gagnante pourra se déplacer, plus un CD ou un DVD. Comment on gagne ? Eh bien, il suffit de composer le numéro du standard que je vais vous donner et de donner la bonne réponse à la question que je vais poser dans quelques instants. Attention, seule gagne la première personne qui aura donné la bonne réponse. Précipitez-vous dès la question posée. Voici le numéro du standard, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. La question du jour, la voilà, la voici. Attention, Eric, vous n'avez pas le droit d'aider, pas le droit de souffler. Eric est invité de ce jour dans l'émission Donnez-nous vos notes. Et il a débuté sa carrière musicale en jouant d'un instrument. La question est, quel est le nom de cet instrument ? Quel est le nom de l'instrument avec lequel Eric Sprogis a débuter sa carrière musicale. Eric, revenons à la musique, revenons à celle que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, à celle qui accompagne votre parcours. Mais avant, je redonne le numéro du standard pour que les auditeurs et les auditrices puissent gagner les lots dont je parlais tout à l'heure. C'est le 05 45 95 09 87. On passe à la symphonie. Une symphonie de Gustave Mahler. C'est ça ?
Oui.
La quatrième symphonie, le début du troisième mouvement. Et pourquoi vous avez choisi cette œuvre, Eric ?
Toutes les symphonies de Mahler sont formidables. Et ce que j'aime chez Mahler, c'est le fait que Mahler est un compositeur qui apprend le monde. Il avait une phrase, il disait, composer une symphonie, c'est comme construire un monde. Et dans toute sa musique, c'est ça. Ce qui lui permet d'aller chercher aussi bien des thèmes issus de fanfares populaires que de musique complètement, quasiment divine, etc. Et la quatrième symphonie est peut-être, sinon la plus légère de ses symphonies, mais en tout cas la plus immédiatement accessible, comme s'il avait voulu faire une parenthèse dans ces très grosses œuvres qu'on connaît, la symphonie qui tend et d'autres. Voilà. Et puis il se trouve que c'est une symphonie que j'ai été amené à diriger plusieurs fois.
Mmh. Alors ce qu'on va entendre, c'est un extrait donné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, avec Abbado, Claudio Abbado à la baguette, orchestre de chambre, orchestre symphonique, orchestre philharmonique, d'autres encore peut-être. Ça veut dire qu'il y a des différents orchestres. Qu'est-ce qui différencie un symphonique, un philharmonique ?
Alors d'abord, philharmonique, symphonique, ce sont des termes qui sont sans rapport. Philharmonique, ça veut dire qui aime la musique. Donc on peut appeler orchestre philharmonique tout ce qu'on veut, ce n'est pas une nomenclature musicale. L'orchestre symphonique, c'est un grand orchestre avec toutes les familles d'instruments, vent, cordes, percussions, etc. Et qui sont des formations qui en général ont plus de 40, 50, 60, 70, jusqu'à 100 et au-delà musiciens. Un orchestre de chambre, c'est lorsque c'est une formation qui a besoin quand même de travailler en formation d'orchestre, donc souvent dirigée, mais dans un format plus réduit. On appelle orchestre de chambre généralement des orchestres qui vont de 10 à une trentaine de musiciens.
Avec la 4e symphonie, vous le disiez tout à l'heure, Mahler voit peut-être moins grand que les précédentes, hein, c'est moins la grosse artillerie, parce qu'il dit lui-même « Je ne voulais écrire qu'une humoresque symphonique. » Et elle a pris la dimension normale d'une symphonie malgré tout, tandis qu'auparavant, quand je pensais que l'ouvrage deviendrait une symphonie, il se mettait à durer 3 ou 4 fois plus qu'une symphonie habituelle ou ordinaire. Peut-être que c'est avec une recherche de transparence et de grâce, finalement, que le musicien il a délesté son orchestre de quelques pupitres. Parce que je crois que les trombones et les tubas, ben, il n'y en a pas dans cette symphonie. Léger, oui. Et puis la texture, si je puis dire, est aussi quasi chambriste parfois. Vous parlez d'orchestre de chambre, et elle propose un va-et-vient entre l'archaïque et le moderne, le léger et le grave. Ah, donc ça veut dire que cette symphonie, elle a plusieurs mouvements, évidemment. 4 mouvements. Et on va entendre l'extrait de quel mouvement déjà ?
Le troisième mouvement.
Ouais. C'est le début, c'est maintenant. Alors, auditrice, auditeur, un aveu, c'est complètement de ma faute, mille excuses. Ce qu'on vient d'entendre, mais c'est parce que je suis un peu lunaire, peut-être ce matin, ou lunatique, allez savoir. C'est pas du tout de la symphonie en question, c'est pas du tout du Mahler, grand Mahler qu'on vient d'écouter, mais c'est l'extrait d'avant, c'était donc un extrait de Chant lunaire.
D'Erix Progis,
oui.
Un très grand compositeur également.
Au moins aussi grand que Mahler et les autres retenus ce matin. 1m71, vous avez dit tout à l'heure, hein, à propos de grands compositeurs. Alors, mais c'est maintenant qu'on va écouter donc cet extrait dont on parlait. On revient au titre. C'est donc la 4e symphonie, cette fois, le début du 3e mouvement de Gustav Mahler, avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Erix Progis. Ah non, par Claudio Abbado, je crois. C'est maintenant. Il monte au bout. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Eric. Pourquoi Mahler, il a écrit ça et pas moi? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se poser
cette question. Je suis muet d'émotion, d'admiration devant cette musique.
Ouais, c'est autant suspend ton vol. C'est ce qu'on a envie de dire. Bon, c'est du passé, c'est une composition du passé, mais ce qu'on va entendre maintenant, ça s'appelle Passé composé, et c'est une autre composition que vous avez produite, Éric Sprogis, il y a quelque temps, une commande d'un conservatoire, c'est ça ?
Oui, elle date de 2007, Passé composé. En 2007, le conservatoire de Calais, dont j'avais été le directeur, mais 20 ans plus tôt, un peu plus de 20 ans plus tôt, venait donc inaugurer un nouvel auditorium. Et pour cette célébration d'inauguration, le conservatoire a eu l'excellente idée de demander à un certain nombre d'artistes qui avaient été élèves du conservatoire de venir se produire ou de produire des actions musicales dans le cadre de cet auditorium qui s'appelle l'auditorium Didier Lecoud, en hommage à un autre musicien qui avait été élève du conservatoire de Calais, puisque Didier Lecoud
était
élève du conservatoire de Calais. Donc il y avait un lien. Donc moi, en tant qu'ancien directeur et qui ne pouvait pas me produire comme instrumentiste, on m'avait donc passé cette commande, on m'avait invité à participer à cette inauguration avec une œuvre spécialement créée pour cette inauguration que j'ai appelée Passé composé. Donc c'est un trio pour clarinette, alto et piano, avec de fabuleux interprètes. Au piano et à l'alto, c'était ces deux professeurs du conservatoire, et à la clarinette, c'est Alain Damien, qui était à l'époque soliste de l'ensemble intercontemporain, la grande formation que dirigeait Pierre Boulez, dont nous parlons tout à l'heure, l'un des meilleurs clarinettistes français de l'époque, qui se trouve avoir été également un ancien élève du conservatoire de Calais, et que se trouve par ailleurs, disons-le, être mon frère. Donc entre ce maelstrom,
même si le nom n'est pas le même,
voilà, dans ce maelstrom à la fois lié à mon passé d'élève du conservatoire de Calais, d'ancien directeur, et la dimension familiale, le terme de passé composé, pour ne pas dire recomposé, parce que c'est pas du tout le cas, de passé composé, se prêtait assez bien à cette œuvre pour clarinette, alto et piano.
On écoute quelques notes de cette composition composée.
Ouais.
C'est maintenant. C'est encore un autre univers, je trouve, sonore complètement, même par rapport au champ lunaire de tout à l'heure, on est dans autre chose. Ça vous est arrivé, Éric, de penser que vos œuvres, celles-ci ou d'autres, pourraient être redonnées à nouveau ? Elles l'ont peut-être été d'ailleurs, données plusieurs fois.
Oui, c'est souvent ce qu'on espère. On espère qu'elles soient quelques êtres
joués, c'est bien. Hein,
c'est l'un des enjeux importants, d'ailleurs, au-delà de mon cas personnel, de la création contemporaine, c'est que quand une œuvre est jouée, qu'elle puisse être reprise et redonnée, même quand elle a été écrite, comme dans le cas précis ou dans le cas précédent d'Éric Champs-Lunaire, pour des interprètes déterminés et pour une situation particulière. Mais je n'ai jamais rêvé d'être un compositeur qui s'inscrirait dans l'histoire éternelle, universelle et indéfinie de la musique.
Il ne faut jamais dire jamais.
C'est pas moi.
On change d'histoire de la musique, on change de période dans l'histoire de la musique, on change d'époque, on fait un bond en arrière. Et on va vers Mozart. Mozart avec un des opéras enchanteurs, tiens. Je vais prendre ce mot-là, qui s'appelle d'ailleurs La Flûte Enchantée. Et je crois que c'est un lien particulier avec Figaro ci, Figaro là, ce chant.
Oui, j'ai proposé qu'on ait ce qu'on appelle l'air de la Reine de la Nuit de cet opéra de Mozart, pour deux raisons. Ça permettait d'avoir un deuxième tube, enfin trois raisons. Un deuxième tube avec Libiamo dans cette émission. Par ailleurs, ça reste un chef-d'œuvre absolu. Et par ailleurs, il se trouve que, parmi d'autres versions, la première fois que j'ai collaboré avec Figaro si Figaro là, la troupe de Montbrillon dont nous parlions tout à l'heure, parce qu'ils m'ont demandé de prendre la direction de leur production lyrique, c'était en 2011, et c'était avec la flûte enchantée. Inutile de vous dire qu'il ne m'a pas plus... Il ne m'a pas fallu plus d'un quart de seconde avant d'accepter cette proposition de consacrer une bonne partie de mon été à ce chef-d'œuvre de Mozart.
Il y a des questions qu'on pose et auxquelles on ne peut répondre que par oui ou alors oui.
Exactement, exactement, oui.
Voilà. Alors on va entendre un chef-d'œuvre de ce chef-d'œuvre, un extrait que je trouve remarquable. C'est l'air de la Reine de la Nuit. C'est Rita Streich, je crois, qui va chanter. C'est une soprano, je crois que c'est la voix la plus aiguë des chanteuses, c'est ça ?
Oui, oui.
Il y a d'autres voix, donc ça veut dire soprano. Quels sont les autres mezzo ?
Alors après, il y a mezzo, il y a contralto, il y a alto pour les femmes. Puis ensuite, il y a ténor avec plusieurs catégories de ténor. Il y a baryton pour les hommes, plusieurs catégories de baryton. Et basse également, jusqu'à la basse profonde, plusieurs catégories de voix de basse.
Alors je me permets un clin d'œil à deux sopranos que j'apprécie particulièrement, et elles le savent. Amélie Robbins et Charlotte Bonnet. Au moins l'une a chanté l'air de la Reine de la Nuit, Amélie Robbins. Charlotte Bonnet, je ne sais pas, j'avoue, je devrais le savoir. Peut-être qu'elle nous le dira. C'est maintenant et ça commence. C'est quoi la Reine de la Nuit ? C'est un cri, c'est la vengeance, c'est la mort de la colère.
Là, la Reine de la Nuit, oui, elle est très en colère.
Ouais. Ouais, la vengeance de l'enfer boue dans mon cœur, c'est ce qu'elle va dire, ou plutôt chanter.
Chanter.
C'est maintenant. De la nuit, pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce qu'elle est reine peut-être, mais enfin de la nuit, parce que elle, finalement, on le découvrira au cours de l'œuvre, elle incarne le mal, le côté obscur de la force, et c'est l'opposition, l'opéra entre le jour et la nuit, entre l'obscurantisme et le savoir, entre l'emprisonnement et la liberté, etc., cher à Mozart, à son époque en tout cas. On change encore de registre et on va aller voir des œuvres, on va aller visiter une exposition, c'est ça ?
Oui, un extrait des tableaux d'une exposition de Moussorgski, un très grand compositeur russe. C'est une œuvre magistrale pour piano. C'est écrite
au départ,
pour piano, et j'adore sa version pour piano. Mais elle était tellement forte qu'elle a inspiré un certain nombre de musiciens qui l'ont orchestrée, donc ils l'ont transcrite pour orchestre. La version la plus célèbre de cette transcription pour orchestre, c'est celle de Ravel.
Qu'on entend assez fréquemment.
Voilà, et qui sera joué cet été d'ailleurs dans le festival Les Lumières à Montbrillon.
Ouais.
Mais ici, ce n'est pas la version de Ravel, c'est la première orchestration dans le courant de l'histoire qui a été faite après la version originale pour piano. Elle a été faite par Touchmalov, donc un contemporain de Moussorgski. Et se trouve, c'est aussi pour ça, outre l'amour que j'ai pour cette œuvre, c'est cette œuvre-là qui a été jouée par l'orchestre du conservatoire de Poitiers, et elle était au programme, elle terminait le concert que je dirigeais avec l'orchestre symphonique du conservatoire de Poitiers la veille en tout cas de mon départ. C'est donc le dernier concert que je faisais avec les élèves du conservatoire de Poitiers juste avant que je les quitte, après 21 ans d'exercice. Inutile de dire que au moins de mon côté, il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là.
Le cadeau était autant pour vous que pour eux, finalement.
Ben, j'espère pour eux, mais enfin, en tout cas pour moi, c'était un moment qui restera gravé, évidemment, dans ma mémoire.
Alors qu'est-ce que c'est que les tableaux d'exposition ? C'est la transcription, sonore, d'une visite dans un imaginaire, dans un musée. C'est parce que Moussorgski avait perdu un ami cher qui était peintre, et puis il a essayé de mettre en musique plusieurs de ses tableaux. Il y en a un, évidemment, que je ne... peut pas oublier de citer, c'est Limoges, le marché, la grande nouvelle. Pourquoi ? Parce que à Limoges, RDC est entendu, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est parmi les cris et les brouhahas du marché, il y a une rumeur qu'on entend qui se propage. C'est que monsieur de Puissangout vient de retrouver sa vache, celle qui s'appelle non pas Marguerite, comme celle de Fernandel, mais la fugitive, et la bien nommée finalement. Et puis ce tableau, s'il a jamais existé, n'a pas été conservé. Bon, on sait aussi que Hartmann a vécu un temps à Limoges et qu'il a étudié l'architecture de la cathédrale. C'est la grande porte de Kiev qui a retenu votre attention. C'est la fin de...
C'est la fin, oui. Ouais. C'est la fin la plus magistrale. Voilà. Peut-être que parce que c'est la porte de Kiev que ça nous permet de penser au drame que vit l'Ukraine en ce moment.
Alors voici la grande porte de Kiev, c'est l'orchestration de Touchmalov, des tableaux d'une exposition de Moussorgski, c'est maintenant. Et c'est la fin de l'extrait, évidemment. Je crois que c'est proche quand même de la castration, mais il y a des particularités de composition, de choix d'instruments. De...
Ah oui, entre Ravel et Touchmalov, oui. La version de Ravel est d'une inventivité exceptionnelle et d'une maîtrise de l'écriture pour instrument exceptionnelle. Ce qui, selon moi, même si j'adore évidemment cette œuvre-là, l'éloigne presque, enfin fait presque oublier ce qui était le génie propre de Moussorgski. On parle presque souvent des tableaux d'exposition de Ravel, et on les joue beaucoup cette année, ouais. Parce que c'est le 150e anniversaire de la naissance de Ravel, et qu'on joue les tableaux d'exposition. Voilà. Je crois que c'est important de se souvenir aussi qu'il y a aussi une œuvre majeure, notamment pour piano,
au départ.
De Moussorgski. Oui.
On reparle violoncelle, c'est un des instruments que vous avez pratiqué avec... Antonin Dvorak, c'est le premier mouvement du concerto pour violoncelle. Pourquoi vous avez choisi ça ?
Alors, je l'ai pratiqué, c'est pas la référence. Alors là, vraiment.
C'était pas ça, c'était la trompette.
Peut-être un petit clin d'œil quand même personnel, c'est qu'il se trouve que mon fils est violoncelliste professionnel. Il joue d'ailleurs, il nous rejoindra cet été pour jouer. Donc, c'est aussi une façon de lui faire
un clin d'œil.
Un clin d'œil avec toute mon affection. Et par ailleurs, c'est lié aussi à un souvenir personnel, j'ai pu faire un concert au théâtre du Châtelet en 1984 avec l'orchestre Colonne, et où et le soliste de ce concerto pour violoncelle de Dvorak, c'était donc Frédéric Lodéon, qui peu de temps après, j'imagine pas à cause de ce concert, a progressivement délaissé la pratique soliste du violoncelle pour se consacrer avec le succès qu'on connaît à l'animation d'émissions de radio, notamment consacrées
et de télévision aussi,
hein, à la musique classique, en télévision également. Ouais. Voilà, donc à ce concert du Châtelet en 84, il y avait ce concerto pour violoncelle de Dvorak, il y avait également une œuvre très originale que j'aime beaucoup, La traîne aux victimes d'Hiroshima de Penderecki, et en deuxième partie, la quatrième symphonie de Beethoven, pas la plus souvent jouée,
non, mais
au programme.
Ouais. On écoute ?
Oui.
Alors c'est maintenant, c'est le concerto pour violoncelle de Dvorak. Eric, s'il vous plaît, Voyons si nous avons une gagnante ou un gagnant au jeu du jour. Et je dis Eric parce que je vais vous faire travailler. Il me semble bien qu'il y a une gagnante, non? Qui est-ce, Eric?
Eh oui, Stéphane, donc c'est Jeannette.
Où est-ce qu'elle habite?
De Sainte, qui a été la plus rapide à donner la bonne réponse.
Alors la question,
au jeu.
Ouais, la question c'était quel est l'instrument avec lequel vous avez débuté votre carrière musicale, Eric Sprogis, et la réponse était
la trompette.
Alors bravo Jeannette, c'est elle qui a gagné, elle recevra deux invitations à participer à une émission de la série Donnez-vous une note sur RDC 93.4 92.5 et puis un CD ou un DVD. Bon Eric, on s'approche de la fin, mais on ne peut pas partir sans être masqué. Pourquoi non. Ça?
Parce que ça va être un extrait de Un bal masqué, un opéra, un troisième opéra par rapport à notre émission de Verdi, qui sera au programme de notre festival Au fil des notes, qui se déroulera du 26 juillet au 1er août dans
plusieurs endroits de la Vienne, je crois.
Voilà, dans le territoire
autour de Montmorillon.
Dans le territoire du Montmorillonnais. Donc c'est un opéra assez étonnant de Verdi. Rapidement pour l'anecdote, ouais. Ça part d'un fait historique qui est l'assassinat du roi de Suède à la fin du XVIIIe siècle, un fait réel qui avait inspiré donc plusieurs compositeurs, dont Verdi. Mais la censure bourbonne en Italie interdisait totalement de représenter la mort d'un souverain, surtout un assassinat, en scène. Donc on interdisait. Donc Verdi a attaché toutes les solutions et il est allé transférer son opéra, la seule solution qu'il a trouvée, à Boston, aux USA, avec, en imaginant l'assassinat du gouverneur de Boston. Donc c'est un opéra, c'est presque un thriller lyrique, comme on dit parfois, d'une très grande réussite. Donc nous-mêmes, nous l'avons transposé dans une autre période, un peu tout Verdi l'a fait, nous en l'avons fait aussi, et on l'a situé dans les années 1930, toujours à Boston, bien sûr, mais dans la période de la Grande Dépression et de la Prohibition, avec vraiment l'assassinat, là aussi, du gouverneur de Boston, mêlé à des enjeux, à la fois des complots d'intérêt, mais également des histoires de trahison amoureuse. Mais comme il s'agit d'un thriller, on ne va pas dévoiler toute l'intrigue ici.
Époque de Prohibition, mais tout est montrable quand même à tous les publics.
Ah, sans aucun problème. On ne boit pas d'alcool en scène.
En tout cas, on n'abuse de rien. Voilà.
Et on ne fume pas.
Bon, Eric, je vais ici souligner le talent, je vais le dire. Des interprètes qui œuvrent avec vous à la promotion de la musique lyrique dans les lieux parfois inattendus, pour le moins inattendus. Moi, j'ai assisté à une interprétation, une représentation dans une grange magnifiquement aménagée. Donc cette opération Figaro là, c'est vraiment apporter la musique à tout le monde et partout. Hein. Toutefois, sans que la qualité pâtisse, je tiens à le souligner. À chaque fois que j'ai pu assister à une représentation de ce festival, j'ai pu vérifier ce que j'avance, pour mon plus grand plaisir, et puis je veux dire aussi pour le plus grand plaisir des spectateurs qui sont assez nombreux à vous suivre ici ou là, et ça ne fait que croître et s'embellir d'année en année. Et je ne peux m'empêcher de vous prévenir, Eric, que nous avons rendez-vous en août prochain, parce que je serai parmi les auditeurs, évidemment, et je le dis aussi à Aurélie Ligerot, elle qui, vous le rappeliez, a été il y a quelques mois déjà notre invitée à votre place.
Et qui jouera le rôle d'Amélia dans cet opéra.
Ouais. Et ils vont pouvoir, donc, les spectateurs et les auditeurs dont je serai, profiter d'une adaptation finalement, c'est-à-dire une transformation de cette histoire. Je l'aime, il m'aime, elle l'aime, on ne s'aime plus, on se tue, on s'entretue, on s'aimera encore. Oh, l'amour que n'a-t-on écrit, chanté, dit, filmé à son sujet, quel que soit le domaine artistique. Mais allez, Eric, quoi de plus important que l'amour? Bon, je ne sais pas. On écoute? C'est maintenant? On écoute? Allez, c'est parti.
Corra fatini con te, sì. Per un dissipo a leggi si scherzi, sì. Ma la vita più cara non è. Sì.
écoutant l'extrait que vous avez choisi, Eric, je vais dire quel final, parce que c'est le final, un final qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas ?
C'est le final du premier acte.
Ouais, ouais, ouais.
La mais fin sera beaucoup moins.
Ouais, oui, mais
écoutez, c'est quasiment une comédie musicale.
Oui,
c'est...
Waouh, je vais se dire, tiens,
voilà,
comme commentaire. C'est une captation, ce qu'on vient d'entendre, effectuée au Met de New York, et qui, comme beaucoup d'autres, a été diffusée dans plusieurs pays, mais au moyen du cinéma. Moi, je trouve que le dispositif est intéressant. Permettre que dans des cinémas, ici ou là, on puisse voir des transpositions, oserais-je dire, en tout cas des représentations qui ont été captées dans tel ou tel opéra. Je trouve que l'idée est bonne, non ?
Oui, c'est une très bonne idée, oui, bien sûr. Mais...
il faudrait sûrement peut-être, hey, pourquoi pas filmer Figaro là un jour et puis le transposer dans d'autres cinémas, au moins de la région.
Mais en même temps, le but étant que de faire des représentations de proximité, rien de tel que de venir voir directement.
Et l'un n'empêchera pas.
Dans les villes et villages.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Eric, l'heure tourne, il est bientôt le temps de la fin de cette émission. Merci beaucoup Eric, merci du fond du cœur, j'ose vous le dire, parce que vous nous avez aujourd'hui magnifiquement donné vos notes, offert vos notes, avec beaucoup d'anecdotes qui ont été certainement appréciées et qui ont accompagné votre vécu, en attendant les anecdotes qui vont advenir maintenant, n'est-ce pas ? Rien ne s'arrête jamais. Et ce faisant, vous nous avez dévoilé un parcours original, de très haute qualité. Nul doute que votre route artistique, continue de la même manière. Voilà tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et s'il vous plaît, à l'occasion de la prochaine étape de cette route, avec au fil des notes, saluer Aurélie Gigerot en particulier. Eric, plus largement, continuez à nous faire profiter de la musicalité qui est en vous. Continuez à nous la donner, à nous l'offrir. Merci beaucoup et par avance pour ça. Merci encore d'être l'invité ce jour, de donner-nous vos notes. Vous avez recevoir a été un régal, une joie, et je n'ai pas boudé mon plaisir, pas plus que les auditrices et les auditeurs, sans aucun doute. Alors encore bravo, encore merci, et nous le disions tout à l'heure, soyez sûr que vous serez le bienvenu pour, dans quelques temps, nous donner de nouvelles notes et nous donner de vos nouvelles et de la manière dont votre parcours musical a évolué, a continué. Alors au plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans l'émission que j'ai le bonheur de donner chaque jeudi, chaque troisième jeudi du mois aux auditeurs, aux auditrices en compagnie d'un invité ou d'une invitée. Auditeurs, auditrices, dès que vous aurez l'occasion d'aller écouter et voir une prestation à laquelle Eric Sprogis participe, foncez, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Auditrice, auditeur, merci sincèrement de votre fidèle écoute et des nombreux messages de satisfaction que vous adressez RDC après chaque émission. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au jeu du jour. Bravo à Jeannette, elle qui a gagné en trouvant que l'instrument par lequel ou avec lequel Eric avait commencé sa carrière musicale, c'est la trompette. Un mot encore pour remercier Jean-Marc, toujours expert dans l'apport de son savoir-faire. Et puis c'est lui qui permettra que le podcast soit le plus vite possible disponible sur le site de RDC. Auditrice, auditeur, au revoir et à bientôt, je l'espère. Le 24 juillet prochain, même lieu, même heure, nous recevrons Jean-Michel Zanotti, chanteur, musicien. Il nous dira tout de lui, ou presque, autre parcours, autre histoire aussi, mais qui permettront à notre invité de nous donner ses notes. Autre parcours, autre histoire, certes, mais toujours la même passion, celle de la musique du partage, celle de la rencontre et de l'échange. Eric, au revoir et à bientôt peut-être, ou non, bientôt, à bientôt sûrement.
Merci à vous.
Je le répète, donnez-nous vos notes. C'est une manière pour tous les musiciens, et vous en particulier, Eric, de nous offrir vos notes. Et sous votre direction, je parle au chef d'orchestre, faites-nous encore entendre les vôtres et celles des autres. Ça sera pour nous un grand plaisir. Jean-Marc, au revoir et à très vite. Toujours avec plaisir. Merci de tout faire donc pour que le podcast soit très vite accessible sur le site. Auditrice, auditeur, à bientôt dans l'attente, belle écoute de RDC. Jean-Marc, tu peux lancer le générique car donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Pour aujourd'hui, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4. 92.5. C'était donnez-nous vos notes, une note, des notes, donnez-nous des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, Magicienne des mots, magicien des mots, donnez-nous vos notes. Chanteur ou chanteuse, instrumentiste, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt. Pour moi, ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt. À bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.